pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine, sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, et bien évidemment, Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Des liens entre la science et le complexe militaro-industriel. Et pour illustrer cela, nous nous rendons à Toulouse pour l'écoute d'une rencontre avec Fabrice Lamarck pour son ouvrage « Des treillis dans les labos, la recherche scientifique au service de l'armée ». Et cette rencontre a été réalisée et mise en onde par Radio Radio avec Radio Radio Plus et Radio Terre. Bonne écoute.
Mercredi 17 avril 2024, la librairie Ombre Blanche organisait une rencontre avec Fabrice Lamarck, membre du groupe Grothendieck et auteur en 2021 de l'Université désintégrée, la recherche grenobloise au service du complexe militaro-industriel, ainsi que Sayat Topuzo-Goulari, membre de l'Observatoire des armements, autour de la parution du livre « Des treillis dans les labos, la recherche scientifique au service de l'armée » aux éditions Le Monde à l'envers.
Bon bah bonjour tout le monde et puis ça fait plaisir d'être à Toulouse. Donc là en fait je vais rapidement expliquer qui est l'Observatoire des armements. Donc l'Observatoire des armements est un centre d'expertise indépendant dans le domaine de la défense et de sécurité. Puis autrement dit c'est un centre de documentation, c'est-à-dire qu'on a des archives, c'est un lieu physique. On existe depuis 84, donc cette année on fête nos 40 ans. Voilà. Donc 40 ans d'action, de recherche, investigation pour désarmer. Donc on travaille sur trois axes. Donc on mène des recherches et investigations sur trois axes spécifiques. Contrôle des transferts d'armes de la France. Donc nous faisons de notre mieux pour apporter plus de transparence et de l'information sur les activités de exportation d'armes, mais aussi sur la production bien évidemment. Et par la suite, ça va être la question du nucléaire militaire. Donc historiquement, nous avons œuvré sur le... réparation et justice pour les victimes des essais nucléaires français en Sahara algérienne et en Polynésie. Voilà, les choses ont avancé doucement, mais ça avance. Et le jour d'aujourd'hui, il y a un traité d'interdiction des armes nucléaires qui est entré en vigueur depuis 2021 au sein de l'ONU. Donc on fait partie de cette campagne, on est co-porte-parole, afin de créer en fait une mobilisation pour plaidoyer auprès du gouvernement pour qu'au moins la France participe aux réunions concernant ce traité-là, parce que voilà, il fait partie des 9 puissances nucléaires. Et Fab, d'ailleurs, il va très bien vous expliquer à quel point. Et par la suite, on soutient aussi tous les mouvements de paix et de résistance aux guerres. Aujourd'hui, on a des camarades qui s'occupent de faire les chroniques des réfractaires russes, parce que aujourd'hui, il y a énormément de, propagande sur le Poutine, alors qu'il y a des milliers de gens qui résistent, qui sont contre cette guerre, qui s'expriment. Et en fait, c'est ces personnes-là peut-être qu'il faudrait soutenir. Donc nous, on fait une chronique où il y a toutes les informations. Vous le trouverez sur le site. On mène beaucoup de travail avec Fab qui fait des enquêtes. Et puis là, je vais lui laisser la parole.
Moi, je suis pas du tout un expert en armement ou quoi que ce soit. Je suis plutôt un militant. Je sais pas comment on peut dire ça, un militant, quelqu'un qui cherche aussi l'esprit critique et qui plutôt un militant de gauche, on va dire ça comme ça. Je suis pas mal implanté sur le campus de Grenoble. En fait, on a créé une structure qui s'appelle l'Université Autogérée, où on promeut l'esprit critique, des cours autogérés, etc. Et en fait, on s'est aperçu que l'Université de Grenoble était en lien avec des entreprises militaires, etc. Et le premier déclic pour un peu impulser un truc incarné, c'était en 2018, il y avait le mouvement Parcoursup sur les facs et nous, on était mobilisés par rapport à la sélection à l'université. Et au même moment, il se passe des colloques sur le campus. Il s'est passé un colloque, ça s'appelait « De Frontex à Frontex ». Alors Frontex, c'est les militaires et la police des frontières. Et nous, bah, du coup, on est venu manifester. En plus, on était nombreux, c'était un mouvement social. On est venu manifester devant ce colloque. Alors ce colloque, il avait lieu dans un énorme bâtiment qui s'appelle l'IMAG, qui est un des plus gros laboratoires d'informatique de Grenoble. Voilà, alors déjà, ça nous paraissait bizarre. On a manifesté devant, puis après, on a réussi à rentrer dedans. Et là, en moins de 5 minutes, on a eu une avalanche de policiers qui nous ont frappés, maltraités. Et il y a eu 4 blessés qui sont partis à l'hôpital après cette mobilisation. Et nous, bah, du coup, on ne se laisse pas démonter. Et on a dit, bah, là, on va gratter, on va chercher, on va trouver et on va essayer de savoir pourquoi ce type de colloque peut avoir lieu sur le campus de Grenoble, alors que tout le temps, les présidents d'université nous disent « Non, mais il n'y a pas de lien avec l'armée. Non, mais c'est pas vrai. Vous fabulez, vous racontez n'importe quoi, etc. » Et du coup, on a enquêté. On avait sorti une petite brochure. Et là, Le Monde à l'envers, une maison de petite édition locale grenobloise, nous a dit bah, « Faut en faire un bouquin, faut un peu l'étoffer, etc. » Et ça donnait le bouquin qui est sorti dans les années 2000, s'appelle « L'université désintégrée ». Qui est vraiment plutôt spécifique à Grenoble, qui est une enquête critique. Alors l'enquête critique, c'est-à-dire qu'on va chercher des informations un peu de partout, dans la presse, dans les médias, dans les thèses qui sont faites à la fac, et on va essayer de récolter des informations, de tenir ça bout à bout. On va chercher aussi dans des manuels d'histoire, et on va apporter une couche, on va dire, critique et philosophique et militante sur cette couche, on va dire, plutôt neutre. On ne va pas balancer un truc en disant, bah voilà, démerdez-vous. Alors, il y a telle boîte qui bosse pour machin, et il y a tel truc. Et en fait, moi, j'ai l'impression qu'il faut incarner la chose et il faut aussi redonner un contexte philosophique. Et moi, je m'appuie pas mal sur un philosophe qui s'appelle Günther Anders, qui était un philosophe qui a lutté toute sa vie contre les armes atomiques. Et voilà, du coup, il y a des fois des petites citations, des reprises de ce philosophe-là pour un peu agrémenter l'enquête critique. Du coup, Détrayé dans les labos, c'est un plus petit bouquin qui se lit plus facilement et dans lequel on a essayé de défocaliser de Grenoble. On a essayé de voir où se situent les liens entre les universités et les milieux militaires et l'armement. Mais je vais refaire un peu un contexte général par rapport à la France. Pourquoi la France est un pays aussi militarisé? Et du coup, moi, j'ai noté qu'il y avait 3 compétences qu'on peut attribuer à la France au niveau militaire. La France est une nation belliqueuse, c'est-à-dire qui fait la guerre. Là-bas, c'est une nation coloniale. Mais encore aujourd'hui, il y a à peu près 7000 soldats qui sont sur des têtes d'opération. Ça s'appelle des OPEX. À peu près la moitié sont dans le Sahel pour les opérations Barkhane, etc. Même s'ils sont partis du Mali, ils sont toujours présents au Niger, au Tchad. Je ne sais pas si vous avez vu l'actualité où il y a eu des frappes de drones et de missiles iraniens. Et ben, une partie de l'interception de ces drones, c'est la France, parce qu'elle a des bases au Liban, avec notamment la FIMUL, qui est en lien avec l'ONU, mais elle a aussi des bases aux Émirats Arabes Unis, etc. Elle est vraiment présente dans la péninsule arabique, présente au Liban et présente aussi en Afrique. C'est une armée qui fait la guerre, voilà. La deuxième chose, la France, c'est une nation qui fabrique la guerre. Ça, c'est différent. C'est-à-dire que la France, elle a développé, un complexe militaro-industriel. Moi, je préfère dire un complexe scientifico-militaro-industriel. Dedans, il y a les scientifiques, il y a les industriels et il y a les militaires. C'est 3 composantes. Je reprends la métaphore d'Américain, il appelle ça le triangle de fer. Un peu, voilà. Ça montre un peu le lien. Cette expression scientifico-militaro-industriel, c'était un mathématicien qui s'appelait Roger Godement. Dans les années 70, c'était un mathématicien antimilitariste. célèbre. Voilà. Depuis les années 50, on va dire, c'est la politique gaullienne d'indépendance française dans l'industrie d'armement. De Gaulle, il ne voulait pas acheter d'armement ni aux Russes, ni aux Américains. Du coup, il développe un complexe militaire hyper développé. Ce complexe-là, pour moi, il est focalisé sur un organe qui est hyper important en France qui s'appelle le Commissariat à l'énergie atomique. Il y a une succursale du Commissariat à l'énergie atomique vers Bordeaux, mais il y en a pas trop. Il y en a un peu vers Toulouse, mais c'est surtout vers Bordeaux. Et il y en a une implantation aussi à Grenoble. Le Commissariat à l'énergie atomique, à la base, il fait la bombe atomique. Et puis après, il va faire du nucléaire civil. Du coup, c'est pour ça que la troisième compétence de la France que je voulais vous dire, c'est que la France est un pays nucléariste. La France est un pays qui détient les compétences dans tous les domaines pour fabriquer sa bombe, ses missiles, ses vecteurs, et aussi pour faire du nucléaire civil. La France, elle détient 330 têtes nucléaires, à peu près comme la Chine. C'est énorme, c'est vraiment, on peut annihiler le monde entier avec tout ça. Et il y a deux composantes. Il y a une composante qui est dans des sous-marins invisibles, qui est dans l'océan, et à tout moment, ils peuvent déclencher une attaque. Et puis, il y a une composante qui est plutôt aéroportée, qui peut être larguée par les rafales. Comment ça s'organise tout ça ? Pour faire la bombe atomique et pour faire de l'armement, c'est hyper compliqué. Ça demande un savoir-faire hyper spécifique. Et il faut savoir que, en fait, toutes les entreprises d'armement, c'est des entreprises, on va dire, capitalistes, elles ont besoin qu'il y ait du rendement et elles ont besoin que ça soit rentable. Il faut qu'elles vendent de l'arme, sinon, en fait, elles ne peuvent pas en produire. Et on estime qu'il faut à peu près 40 à 60% de ventes extérieures pour que les industries d'armement soient indépendantes, c'est-à-dire qu'on puisse avoir un armement français indépendant. La France, elle détient des armements et des entreprises d'armement dans tous les secteurs. Alors souvent, c'est défini par rapport aux éléments. Il y a les secteurs de l'air, tout ce qui est avion, les secteurs de la mer, tout ce qui est navire, l'air, la mer, la terre, du coup, tout ce qui est chars d'assaut, etc., les fusils, etc. Et puis après, il y a aussi espace. Alors l'espace, dedans, il y a le satellitaire militaire pour l'observation, le renseignement et tout. Mais il y a aussi la bombe atomique. Les missiles atomiques, en fait, ils montent dans l'atmosphère et puis après, ils redescendent comme ça. Ça fait partie de l'espace. Et puis après, il y a aussi la cyberguerre. Du coup, c'est tout ce qui concerne le fait de brouiller les communications adverses, de récupérer des informations, etc. Et puis moi, je dirais qu'il y a un sixième terrain, c'est la propagande. On est très fort en propagande militaire. Je ne sais pas si vous voyez en ce moment les pubs un peu de partout pour l'armée. Ça n'arrête pas dans tous les domaines. Il faut savoir que là, ils ont besoin de recruter en ce moment pour refaire les contingents, notamment pour les réservistes. Du coup, la France, elle détient des entreprises dans tous ces secteurs-là. Et en fait, elle est indépendante dans tous ces secteurs. En fait, ce qu'on dit, c'est que l'armée française peut intervenir dans tous les champs d'opération possibles. La terre, la mer, l'air, et c'est assez rare. Il n'y a pas beaucoup de pays qui peuvent intervenir dans tous ces champs d'expérience. Pour avoir tout ça, il faut exporter, du coup, 40 à 60% de l'armement. Et du coup, cocorico, ça fait une dizaine d'années que la France, elle est à peu près entre 5e, 3e exportateur d'armes au monde. Et là, récemment, là, le CIPRI, l'Observatoire de Stockholm pour la paix, c'est l'observatoire international qui référence un peu toutes les exportations d'armement, et ben, ils ont noté que la France, elle est passée deuxième. Pourquoi la France, elle est passée deuxième ? Pour deux raisons. D'une part, la Russie, la base, c'est la Russie qui est deuxième. La Russie, bah, elle garde ses armes pour le marché intérieur. Et d'autre part, on a vendu énormément de rafales. C'est notre avion de chasse fait par Dassault qui est à Bordeaux. Entre 2019 et 2023, on a vendu 94 rafales. Et la plupart de nos acheteurs, c'est les pays de la péninsule arabique, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, etc., le Qatar. Et en plus, il y a encore l'Inde et l'Égypte. Voilà, ça, c'est nos principaux acheteurs de rafales et d'armes de guerre. Du coup, pour vendre, il faut que les armes elles soient compétitives. En fait, si nos armes, c'est des vieux riblons des années 70, pas high-tech, elles ne se vendent pas. Du coup, ils ont inventé un concept qui s'appelle l'innovation de défense. Qu'est-ce que l'innovation de défense ? C'est le fait d'extirper de la France le jus de cerveau de nos scientifiques, de nos chercheurs, pour la mettre au service de la défense. L'ancien modèle, le modèle des années 70, 80, etc., c'était qu'il y avait des ingénieurs de l'armement directement. C'est des ingénieurs qui bossaient pour des instituts de l'armement, notamment le plus gros institut, ça s'appelle la Direction Générale de l'Armement, qui était payé par l'armée. Ça, c'est l'ancien modèle. Ce qui s'est passé dans les années 90, il y a eu une décrue un peu des budgets militaires. et notamment un dégraissage, on va dire, que de la Direction Générale de l'Armement. Ils sont passés de 30 000 ingénieurs à 10 000 à peu près. Et la technique actuelle, c'est d'externaliser. C'est-à-dire, on n'a plus besoin d'avoir des ingénieurs militaires. On se sert du jus de cerveau des civils pour prendre cette innovation, etc., et pour faire la guerre. Alors, typiquement, maintenant, tous les ans, ils sortent un rapport. Vous pouvez regarder, il est disponible sur Internet. Hein. Ça s'appelle le DROID, le document d'orientation de l'innovation de défense. En gros, ça explique dans quelle recherche scientifique faut qu'on pioche dans le civil pour améliorer nos armes de guerre et pour pouvoir les vendre et pour pouvoir être plus performants, etc. Du coup, pour peser à la fois dans les exportations et pour peser à la fois, comme on dit, dans le game au niveau mondial. Alors, j'ai noté une petite phrase de ce rapport-là. L'Agence de l'innovation de défense a lancé en 2002 le premier appel à projet thèse idée pour inclassable, décalée, étonnante et pastrouillante et singulière. Ce nouveau dispositif vise à favoriser l'approche innovante, décalée, voire hétérodoxe, promouvant une forte prise de risque en sélectionnant des sujets libres élaborés à partir d'une approche méthodologique originale. Voilà. En fait, ils essayent de draguer les chercheurs et les thésards en physique de la matière, etc., en mathématiques, en informatique. Le budget de l'armement, c'est tous les 5 ans, c'est la loi de programmation militaire, ça s'appelle comme ça. Là, le budget 2024-2030, on est passé à 413 milliards d'euros, 100 milliards de plus que le budget des 5 ans avant. C'est vraiment énorme, c'est un des plus gros budgets. Et pour l'innovation de défense, on a à peu près 10 milliards. Du coup, il y a de quoi balancer beaucoup d'argent pour des recherches qui n'arriveront pas, qui serviront à rien. Et dans ce cas, on passe un tamis et on récupère certaines thèses, certaines recherches qui aboutiront. Du coup, comment ça marche ? Les chercheurs, en fait, ils ont besoin de financement et ceux qui font des thèses ont besoin de financement. Et ben, en fait, c'est directement des fois la Direction Générale de l'Armement qui vient voir des thésards et qui les finance. Et là, je ne parle pas du tout de secteur militaire, dans le secteur civil qui finance des thèses civiles. Et après, il se passe des fois des concours DGA où justement ces thésards sont sélectionnés en disant « Ah bah toi, tu viens de faire un robot, ça nous intéresse, etc. Il est super bien ton robot, on va peut-être le sélectionner. » Et typiquement, il y a un magazine militaire qui s'appelle « Esprit de défense ». Attention. Et dedans, bah, il y a un concours de robotique en lien entre des étudiants. C'est super cool, en fait, des étudiants qui conduisent des robots tueurs, qui sont félicités par les militaires. Après, ils font un débriefing comme s'ils étaient à l'armée. Et à la fin, tout ce beau monde, du coup, les militaires et les étudiants, ils mangent des rations militaires ensemble. Voilà, ils disent c'est pour la cohésion de groupe. Mais parlons un peu de Toulouse. Toulouse, vous, c'est une des places centrales du complexe militaro-industriel, scientifico-militaro-industriel. Et j'ai repéré plusieurs cibles où bizarrement, la Direction Générale de l'Armement approche ou finance des thèses, etc. Et sont vraiment très preneurs de certaines thèses. Et notamment, il y a un laboratoire qui s'appelle le LAS, L-A-A-S, qui est un des plus gros laboratoires d'informatique et de robotique français. Hein. Et j'ai vu que tous les ans, il y a une journée nationale de la recherche en robotique. Vous aussi, vous avez ça. Et bah, cette année, bah, figurez-vous qu'il y avait la Direction Générale de l'Armement qui était présente et qui faisait une conférence, la robotique et l'intérêt pour la sécurité et défense. Alors, le LAS, hein, c'est un laboratoire public, civil, qui est rattaché au CNRS. Hein. On ne parle pas de trucs militaires top secret. Hein. Du coup, ça, c'était un petit exemple. Il y a aussi un autre exemple, c'est vous avez une des plus grosses écoles d'ingénieurs qui s'appelle SupAéro. À Paris, il y a SupElec, c'est plutôt électronique. Et vous avez SupAéro, ça forme des ingénieurs pour l'aéronautique. SupAéro, j'ai vu qu'ils ont une recherche en gros sur des imageurs, des capteurs pour en gros l'arme atomique. Du coup, ça s'appelle la recherche CIMI, ça s'appelle capteur imagerie en milieu irradié. Voilà, du coup, ça dit un peu de quoi ça parle. Et dedans bah, bizarrement, il y a le CEA. Alors, il y a une branche très spécifique du CEA. Si vous voulez savoir si en gros c'est du militaire, si ça concerne la bombe atomique. C'est le CEA DAM, Direction des Applications Militaires. Eux, c'est la bombe. C'est vraiment ceux qui font la bombe, qui optimisent la bombe, qui font les nouvelles versions de la bombe, etc. Et bah, du coup, SupAéro, bah, en fait, ils sont partenariat dans cette fameuse recherche avec le CEA DAM, avec Ariane Group. Vous me direz, c'est bizarre, Ariane, ils font la fusée. Ils font la fusée Ariane, non, c'est du civil. eh ben, détrompez-vous. En fait, c'est très bien expliqué dans les rapports parlementaires. Le Ariane Group, c'est à la fois civil et à la fois militaire. Dans leur jargon, ils appellent ça double usage ou dual. Ils disent, en fait, c'est dual. En fait, ils ont tout un jargon pour pas dire qu'ils font du militaire souvent. Par exemple, au lieu de dire bombe atomique, ils disent dissuasion. Défense, la défense, bah, c'est la guerre. Souvent, missiles balistiques. Souvent, c'est plutôt des fois des missiles nucléaires. Pas tout le temps, mais ça ressemble. Aérospatial. Aérospatial, c'est soit satellitaire militaire, soit la bombe atomique aussi, parce que comme je vous ai dit, elle monte dans l'espace, etc. Alors, un petit rapport parlementaire, comme faut les fader, qui s'appelle « Les enjeux industriels et technologiques du renouvellement des deux composantes de la dissuasion ». La dissuasion nucléaire, l'arme atomique. C'est rapport parlementaire de la commission défense, voilà, et des forces armées. Et à un moment, ils parlent d'Ariane. Ils disent « Les deux programmes, Ariane et missiles MSBS, ont été développés en parallèle. Le premier lanceur Diamant a ainsi directement bénéficié des apports des recherches sur les SSBS et MSSBS. En gros, bon, ça c'est pas grave, on comprend pas, mais vous allez voir plus tard. Ça a suscité l'émergence d'une véritable synergie entre le programme spatial européen et le programme balistique dans le domaine de la propulsion. La propulsion des armes atomiques. D'autre part, en termes d'expertise industrielle, chaque tir d'Ariane 5, du coup, quand vous voyez la fusée qui décolle, 6 lancements par an, 74 succès de suite, permet un retour d'expérience pour le secteur balistique et contribue à crédibiliser la force de dissuasion française. Et permet par exemple de réduire les coûts sur les secteurs militaires pour les poudres notamment. Plus largement, le même bureau d'études développait Ariane et le missile M51. Le missile M51, c'est le plus gros missile. Si un jour les Français ils lancent ce missile-là, on est tous morts, quoi. Enfin, c'est guerre atomique, quoi. Du coup, à la fois, ils font Ariane Group, à la fois, ils font Ariane, et à la fois, ils font le missile M51. Tandis que les équipes en charge du M51 au sein du groupe Safran travaillaient sur les systèmes de guidage et de développement des centrales inertiales d'Ariane 6. Du coup, il y a vraiment une porosité entre le civil et le militaire. Moi, comment je l'interprète, c'est que dans les années 70-80, tout notre complexe militaro-industriel, il a dû se diversifier parce que ce n'était pas une époque, on va dire... guerrière à fond les ballons. Mais vu que maintenant ça remonte, vu que maintenant on est dans une époque où le bellicisme il reprend une grande force, Macron tout le temps parle de l'économie de guerre, ben là pour le coup il ment pas, c'est vraiment vrai. On rentre dans vraiment une économie de guerre. Ça serait un peu une version Première Guerre mondiale, mais version high-tech, quoi. Où en fait on produit à fond des armes. À la fin du bouquin, j'ai une citation qui est un peu triste, qui date de 1915, c'est déjà un an que la France elle est rentrée dans la guerre, et en fait c'est des anarchistes qui se réunissent à Londres en disant « mais en fait c'est la merde, on a au début certains anarchistes étaient pour la guerre, parce qu'en disant « faut lutter contre l'ennemi », etc. Puis finalement ils se sont aperçus que c'était véritablement une boucherie, et du coup les anarchistes ils se réunissent à Londres, ça s'appelle l'International Anarchiste et la Guerre, et ils disent « la guerre était inévitable, d'où qu'elle vint, elle devait éclater ». Ce n'est pas en vain que depuis un demi-siècle, on prépare fiévreusement les plus formidables armements et que l'on accroît tous les jours davantage les budgets de la mort. À perfectionner constamment le matériel de guerre, à tendre continuellement tous les esprits et toutes les volontés vers la meilleure organisation de la machine militaire, on ne travaille pas à la paix. C'est un peu la conclusion du bouquin, c'est un peu une conclusion pessimiste. C'est pour se dire que là, il est vraiment temps de se mobiliser à fond. Là, en ce moment, Macron, je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelques jours, il a été encore inauguré une usine de poudre Eurenco à Bergerac. Le Monde, il dit que c'était une usine décrépite, qui ne se passait rien. Mais depuis qu'il y a la guerre en Ukraine, c'est super bien parce que comme ça, ils vendent plein de poudre. Et en fait, maintenant, ils ont fait 1,2 milliard d'euros de bénéfices en 2022. C'est trop bien. Et en gros, c'est l'économie de Macron. Il dit qu'en gros, il va remettre de l'argent dans 20 boîtes françaises pour l'économie de guerre. Une dernière petite info. Alors, il y a un truc que vous pouvez regarder sur Internet. Ça s'appelle ECODEF. ECODEF, c'est l'Observatoire économique de la défense. Du coup, c'est l'armée qui parle et qui font des statistiques sur le complexe scientifico-militaro-industriel français. Et il y a une thématique par numéro. Et là, il y a une thématique, le numéro 204, c'est la dualité civile-militaire dans la production aérospatiale à Bordeaux et Toulouse. Et Il y a des chiffres. Alors, à Toulouse, concernant l'aérospatial militaire, il y a à peu près 7287 personnes qui bossent dedans. Si on regroupe avec Bordeaux, il y en a 6555 et ça fait en tout 21244 cerveaux qui bossent pour l'aérospatial militaire, pour fabriquer notamment les bombes atomiques, les lanceurs, etc., etc. Le complexe scientifico-militaro-industriel en France, il est zoné par région avec des spécificités qui est liée à l'histoire. Il y a pas mal d'aviation parce que il y avait deux entreprises, l'Ateco Air et Levantine. Du coup, c'est plutôt tout ce qui est aérospatial ici dans le coin. Grenoble, c'est plutôt tout ce qui concerne la microélectronique militaire. Là, on a épinglé une grosse boîte qui nous disait qu'il faisait pas du tout d'électronique militaire. Ça s'appelle ST Microelectronics et sa sœur jumelle s'appelle Soitec. On les a épinglés. Ils font de l'électronique pour la dissuasion atomique. Grenoble, c'est l'électronique. Toulouse, Bordeaux, c'est l'aérospatial, les avions, les satellites. Et Paris, ce qu'on a remarqué, c'est plutôt tout ce qui concerne la conception de la bombe atomique et aussi la simulation. Vous savez que maintenant, on ne fait plus d'essais de la bombe, on ne fait plus d'essais en Polynésie. Mais par contre... Et on a des super ordinateurs méga trop puissants. Voilà, les plus gros ordinateurs de France, ils se situent à Paris, sur le plateau de Paris-Saclay. Mégajoule à Bordeaux aussi. Mais apparemment, Mégajoule, ça devait servir à la base pour simuler une explosion nucléaire. Mais finalement, le CEA et les branches armées s'en servent aussi pour plein d'autres choses. Ils ont fait passer ça comme ça, mais ça sert dans plein d'autres domaines. Mais notamment à Paris, il y a les super ordinateurs faits par une boîte qui s'appelle Atos. Et du coup, pour la simulation atomique, du coup, il y a trois gros pôles de ce complexe. Après, il y a plein de petits pôles. Hein. Il y a plein, par exemple, Brest, Naval Group, qui font les sous-marins, etc. Et c'est là où sont mis dans les sous-marins les ogives nucléaires. Là, c'est là-bas. Mais vraiment, nous, ce qu'on a remarqué, c'est que ce lien scientifique, militaire et industriel, c'est vraiment ces trois pôles. Et ça correspond exactement à ce qu'on appelle, dans la France, les pôles de compétitivité de rang mondial. Voilà, c'est des grappes d'industriels, d'instituts publics, d'instituts de recherche qui se regroupent ensemble. Et il y en a trois, bizarrement, de rang mondial. Il y a Grenoble, il s'appelle Minalogic. Du coup, dedans, ils sont tous dedans. Il y a Paris, il s'appelle Systematic. Et du coup, il y a plein d'entreprises qui font de la simulation atomique. Enfin, ils font de la simulation et dedans, il y a de la simulation atomique. Et il y a Bordeaux-Toulouse. C'est le même pôle qui s'appelle Aerospace Valley. Dedans, il y a tous les grands. Il y a Ariane Group. Il y a Dassault, il y a Nexer électronique, etc., etc.
Niemals werde ich Soldat, niemals helfe ich für den Staat, niemals nenn es richtig verrat, ich nehme keine Waffe in die Hand, nein, ich will kein Pupat, niemals kämpfe ich für ein Vaterland, niemals. Und bis die Häuser in den Brand niemals will ich die Waffenwirtschaft unterstützen, noch die Interessen von Unbekannten.
Jamais dans ma vie le militaire me convaincra
de faire le pas, prendre une arme dans les bras et de m'engager à mort de tirer une le pas.
Toute ma force je crie, je ne deviendrai jamais un soldat.
Ça ne me dit pas qu'on va pour une tripa de vendre mon corps et mon âme sachant que je vis pas. Tu as peur, mais il faut que t'ailles. Avec ton fusil, tu es prêt pour la bataille. Attends l'ordre, casser ton travail. D'éliminer les ennemis, lui comme un samouraï. L'officier te traite comme du bétail. Devant lui, t'es petit comme un bandail. Tu ne vends rien, t'es pas de taille. Prêt à être cramé, tu prends ta volonté sans faille. C'est pas du cache-cache, c'est pas un défi. Je suis prévu dans vos achats, moi je m'en méfie. Les balles t'arrachent, les membres de ton corps. Ce n'est pas un jeu, ça m'horrifie, horrifie. Je ne suis pas dingue, je suis pas balabala. Je veux pas de fin-fin pour tirer des balas. Comment que les fin-fin. Une arme dans les bras et de m'engager à mort de tirer une le pas.
Toute ma force je crie, je ne deviendrai jamais un soldat.
Ça ne me dit pas qu'on va pour une tripa de vendre mon corps et mon âme sachant que je vis pas. Jamais dans ma vie j'irai au service militaire.
Il ne me convaincra pas.
Jamais je me laisserai convaincre d'aller à la guerre.
Même si on me forcera.
Contre n'importe quelle promesse et n'importe quel salaire.
Je ne suis pas qu'un achat.
Tu es des gens innocents, ce n'est pas mon affaire.
Innocent ou pas, on doit me l'en croire.
Vivez pas en peinture de camouflage et dérangère. Dans la forêt, sous l'eau, au ciel ou dans le désert. Poser des bombes, tirer des balles, créer la misère. C'est pas mon affaire, ça ne pourra pas me plaire.
Jamais dans ma vie, le militaire me convaincra
de faire le pas.
prendre une arme dans les bras et de m'engager à m'en détirer d'une lupe.
Toute ma force, je ne deviendrai jamais un soldat.
Ça ne me dit pas qu'on va pour une tripa, de vendre mon corps et mon âme, sachant que je vis pas.
Lève-toi, rends ça, pousse-toi, combat. Même si faut tuer des gens, pense pas, suis-moi.
Obéis à mes lois, sauf que ne t'en fuis pas. Même si tu entends le bête peigner la tatata.
Devant le juge, c'est l'armée qui défendra ton exploit. T'inquiète, ce sont nous qui définons la loi.
Et c'est la loi qui te protégera. Devant le juge, devant le tribunal, ne t'inquiète pas. Avec la paix dans ta main, tu es prêt à nous aider. En cas d'inondation, t'aimes bien te présenter. En distribuant du pain aux gens qui sont affamés. Mais la vérité, c'est que t'es payé pour assassiner. Assassin, la famille t'attend en vain. Assassin, personne ne sait si tu reviens. Assassin, pas de retour sur ton chemin. Des montagnes de cadavres, peut-être t'es dans ton demain.
Jamais dans ma vie, le militaire me convaincra
de faire le pas, prendre une arme dans les bras et de m'engager à mort de tirer une lupe.
Toute ma force crie, je ne deviendrai jamais un soldat.
Ça ne me dit pas qu'on va pour une tripa, de vendre mon corps et mon âme, sachant que je vis pas.
Jamais dans ma vie, le militaire me convaincra.
Et nous reprenons l'écoute de la rencontre qui avait lieu à la librairie Ombre Blanche à Toulouse le 17 avril 2024. Et c'était autour du livre de Fabrice Lamarck, Des trilles dans les labos, la recherche scientifique au service de l'armée. Et ce livre est paru aux éditions Le Monde à l'envers.
La mobilisation est nécessaire. Les deux ils sont interdépendants parce que quand on ne sait pas, on ne se mobilise pas. Et surtout que quand il n'y a pas de mobilisation, bah, nous-mêmes à l'Observatoire, on a beau avoir des liens avec les parlementaires ou d'autres, même les médias, vous savez comment c'est. S'il n'y a pas de pression qui vient du bas, en fait, ça, c'est compliqué de faire bouger les lignes. Et du coup, dans ce contexte, quelque part, ruisselle en forme de plein de petites entreprises éparpillées sur tout, PME, éparpillées partout sur le territoire. Ça peut être celui qui fait le boulon, à celui qui fait la puce, etc. Chaque petite pièce est fabriquée. Alors, exportation d'armes conventionnelles. Bon, ça s'appelle, voilà, ces armes conventionnelles. Donc, on va le voir dans le rapport du Parlement, qui sort une fois par an, qui reste très flou, comme tu disais. Mais bon, voilà, il sort ça. Mais le problème, c'est avec, justement, les biens à double usage. C'est-à-dire que, vu que maintenant, la guerre se fait high-tech, c'est-à-dire que, aujourd'hui, l'armée, son cerveau et ses yeux, ça passe par les nouvelles technologies. C'est avec ça qu'il calcule, il se positionne dans l'espace. D'ailleurs, une autre conséquence de ces nouvelles technologies, en fait, les soldats, ils sont très dans un mode d'intervention. On n'est plus dans des grosses armées qui courent comme ça l'un contre l'autre, ça c'est finito. Aujourd'hui, déjà, ça se passe de plus en plus dans des milieux urbains. Et en plus, ils sont tellement bien équipés qu'en fait, ils sont tout le temps protégés. Mais par contre, quand on regarde du côté des drones et son usage, on voit bien qu'il y a plus en plus de civils qui meurent, par contre. Donc, cette nouvelle technologie a plein d'impacts, dont celui-là. Donc, ça protège, en fait, quelque part l'assassin et ça va faire encore plus de victimes. Et le problème, donc, toute cette électronique, c'est double usage. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bah, ça veut dire qu'il n'y a plus de contrôle. Avec ça, ça devient très compliqué. Et surtout, qu'il y a de l'argent des collectivités qui commencent à ruisseler, en fait, sur ces entreprises-là. Exemple, France Relance. Vous verrez, hein, c'est accessible, vous trouverez les données sur le site du gouvernement, data.gouv.fr, et vous allez voir qu'il y a énormément d'argent qui part dans le secteur de aérospatial, nucléaire, électronique, après vous trouverez plein de choses, hein, automobile et tout, mais nous ce qui nous intéressait c'était surtout la partie défense. Et en fait quand on s'enseigne, on voit que ces clusters, les pôles de compétitivité, et en plus les types de petites entreprises, en fait prennent énormément d'argent public. Du coup, pas de contrôle. Dans ce dossier, la guerre se fabrique près de chez nous qui est sortie en mai 2022, où on épingle 11 entreprises de notre région, donc Auvergne-Rhône-Alpes, pour montrer qu'ils font de l'armement conventionnel ou double usage. Ils sont impliqués dans des barbouzeries un peu partout dans le monde où ils équipent les forces de maintien, je veux dire, maintien du désordre, bon, on appelle ça comme on veut. Ils les équipent au sein de la France, mais ailleurs. Et que ce qui est vendu est utilisé dans des régimes autoritaires contre leur propre population, contre des civils. Et en plus, ils touchent notre argent, à savoir que la défense est la compétence de l'État, pas de la région ou de votre mairie. En fait, on se rend compte que dans ces, du coup, technologies duales, il y a beaucoup aussi de questions de détournement. C'est-à-dire que, justement, deuxième chose où on a pu converger avec Stop Micro, c'est-à-dire que, bah, en fait, combat pour la vie, pour l'écologie et combat sur démilitarisation, en fait, ça va bien dans le même sens.
Stop Micro, c'est un collectif qui s'est formé il y a 2 ans. Nous, du coup, à Grenoble, il y a beaucoup d'usines de microélectronique et on s'est aperçu que ça bouffait énormément d'eau, vraiment beaucoup d'eau. Et en plus, c'est de l'eau potable. pour nettoyer les puces, faut de l'eau très propre parce que c'est hypersensible. Du coup, faut pas de l'eau qui soit chlorée, par exemple. Et du coup, il y a 2 ans, il y a eu des énormes sécheresses. Et là, il y a eu une mobilisation encore cette année parce qu'on s'est aperçu que, bien sûr, dans les puces que produisaient ces boîtes d'électronique, il y avait des puces militaires.
C'est ça.
Voilà. Et puis qu'on a retrouvé un peu sur des théâtres d'opération.
Ouais, c'est ça. En fait, du coup, les camarades chez nous qui sont chargés d'études, on épinglons ST Microelectronics dans une violation d'embargo contre la Russie depuis 2014. À savoir, ça continue encore. En passant par d'autres pays comme la Turquie ou autres pour pouvoir
Singapour,
continuer à vendre.
Taïwan,
en fait, ouais, c'est ça.
Singapour, Taïwan. Mmh.
Et pour pouvoir faire passer les puces. Donc, il y a déjà passé par d'autres pays pour continuer à vendre. Mais aussi quand on dit « Ah, mais attendez, c'est pas de l'armement, c'est du civil, donc c'est OK. » Voilà. Donc, si vous voulez, là, ça joue un peu au cache-cache comme ça. Donc, effectivement, on défend un peu la question d'enquête citoyenne, en fait, ou enquête militante, tout simplement.
On a réussi, du coup, grâce aux travaux de l'Observatoire des armements, à épingler aussi une autre boîte grenobloise qui fait des capteurs infrarouges. En fait, les drones et les missiles, ils ont besoin de voir la nuit. Et en fait, à Grenoble, c'est construit la grosse boîte qui fait tout l'infrarouge militaire. Et bizarrement, c'est encore à la base, c'est une start-up qui vient du CEA, bizarrement. On a pris les infos de l'Obsarm, il y a eu des drones russes qui ont été démontés par des Ukrainiens, parce qu'il y a plein de drones russes qui tombent sur le sol ukrainien. Et on s'est aperçu qu'il y avait ces puces-là de l'entreprise qui s'appelle LINRED. Et LINRED a carrément, sur le campus de Grenoble, ce qu'on appelle une chaire. Une chaire, aujourd'hui, c'est quoi sur un campus avoir une chaire? C'est-à-dire qu'elle finance directement des projets de recherche. Du coup, là, en ce moment, on est en train de foutre la pression sur le campus pour dire, en fait, on ne veut pas de LINRED sur le campus. Parce que dans la chaire, il n'y a aucun moment, c'est marqué, c'est pour le secteur défense. Alors que 80% des puces de LINRED sont pour le secteur défense. À aucun moment, dans leur publicité sur le campus, ils disent qu'ils sont pour le secteur défense. Ils disent que ça sera pour la voiture autonome, pour l'imagerie médicale. Ah ouais, il y a toujours ça, le médical, ça fait passer la pilule. Et nous, on dit, mais non, en fait, c'est pour tuer des gens. Alors du coup, heureusement que dans nos petits groupes, on a notamment un chercheur en informatique et qui épluche un peu les thèses abscons, on comprend rien dedans. Et ben, une des premières thèses qui est sortie de cette chaire, c'était une thèse où, en gros, c'était un algorithme qui essayait de voir si un bâtiment, il était debout ou il n'y en avait plus, 0 ou 1, quoi. Ça veut dire quoi, en gros? Ça veut dire que ces puces, elles essayent de voir si un bâtiment, il était démoli ou pas, typiquement pendant une guerre, quoi. Voilà. Du coup, c'est toujours comme ça, c'est toujours tendancieux. Il n'y a jamais aucune fois le mot défense dans leur thèse. Mais il faut regarder les financements en bas, la Direction Générale de l'Armement, le CEA, l'INRED, les entreprises, etc. Et puis après, il faut remonter le fil.
Par exemple, quand on a lancé ce dossier, un des premiers événements était à Grenoble. Là, en fait, il y a un ingénieur qui venait d'arrêter justement de bosser. Et c'est ça qui a lancé Tony là-dessus. C'est qu'il est venu, il a dit, ouais, les gars, mais en fait, nous, en interne, on a vu qu'il y avait des photos qui tournaient comme quoi nos capteurs infrarouges étaient utilisés pendant la guerre, etc. Et bon, lui, il avait décidé d'arrêter. Mais par contre, avoir ce gars-là, ça nous a permis d'avoir des infos et les photos pour pouvoir aller plus loin.
En plus, il y a une bonne nouvelle. On est pas mal en lien avec des syndicalistes de la microélectronique. Et il nous a dit, après toutes les infos qui sont sorties sur l'INRED et la Russie, c'est même paru apparemment sur France 2, là, on leur a mis la honte, et apparemment la Direction Générale de l'Armement est allée voir directement l'INRED en disant, vous arrêtez de déconner, vous arrêtez d'exporter n'importe comment ces trucs, apparemment ils auraient perdu plusieurs millions d'euros. D'après un syndicaliste, moi je ne sais pas, je ne suis pas dans les petits papiers, mais du coup notre action, elle peut quand même un peu des fois, de temps en temps, avoir des effets concrets, rien que des fois en publiant des choses, des fois on a l'impression de dire on publie un bouquin, ça ne sert à rien, de toute façon c'est trop gros. C'est vraiment, moi, des fois j'appelle ça le Moloch, c'est-à-dire le monstre, quoi. C'est la bête et nous on est tout petits. En fait non, il ne faut pas le voir comme ça, moi je pense que ça a véritablement des effets et de toute façon plus on sera nombreux, plus on...
Ça sera mieux. Il y a le travail du complexe militaro-industriel qui se mène toujours à Grenoble, à savoir que notre région est spécialisée sur l'optronique, donc on a aussi des lanceurs de grenades à Saint-Étienne, il y a les blindés Arcus, il y a aussi une partie de Charles Leclerc, de Nexter, voilà, donc il y a blindés, voilà, lance-grenades et optronique, donc c'est vision de nuit. Et du coup, à Bordeaux, donc, petite équipe qui s'est composée avec la formation, donc eux, ils sont mis sur les drones. Donc voilà, je file l'info, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui bossent actuellement sur la production de drones là-bas, qui eux aussi, effectivement, font partie de Aerospace Valley, que tu en as parlé, là, le pôle de compétitivité.
Voilà.
Vous pouvez prendre la parole.
Eh ben ouais, l'assemblée antimilitariste contre toutes les guerres à Toulouse, c'est une assemblée qui s'est lancée il y a quelques mois déjà, du début de la guerre et du génocide à Gaza, et il y avait plein de trucs qui nous allaient pas dans ce qui se passait, soit dans les mobilisations pro-palestiniennes, soit dans les discours, soit et du coup voilà, on s'est retrouvés pour discuter ensemble. Ben on avait aussi envie de se mobiliser et d'essayer d'avoir un impact à notre échelle par rapport à ça, quoi. Et du coup, on a lancé une assemblée en janvier. On se voit deux fois par mois, à peu près toutes les deux semaines. Globalement, on partage le constat que vous avez posé. Surtout à Toulouse, l'armement, quand on commence à y mettre le nez dedans, c'est partout, quoi. À la fac, dans le sport, dans les boîtes, c'est partout dans la ville. Là, je sais pas si vous savez, mais il y a la nouvelle ligne de métro, la ligne C, qui est là pour relier Airbus à Airbus. Enfin, c'est vraiment, c'est assez impressionnant. Ce constat, il est partagé. Et après, on part du principe, comme vous l'avez posé, mais peut-être sous d'autres formes, pas du lobbying. Parce que nous, on pense plutôt qu'on n'a pas grand-chose à faire avec les institutions. Mais du coup, à notre échelle, de faire des petites actions contre ce mastodonte, comme tu disais, quoi. On a collé des trucs sur les Vélib contre la guerre, en se disant que les Vélib, ils allaient bouger un peu dans toute la ville. Et du coup, ça a été repris un peu. Il y a des banderoles qui ont été posées. Il y a des affiches et des banderoles qui ont été posées. Il y a assez régulièrement des salons de recrutement pour Airbus, pour Thales, pour Safran, qui sont assez massifs, ils recrutent des milliers de personnes à chaque fois. Et du coup, voilà, l'idée d'aller perturber ça. On était aussi à Paul Sabatier, c'est une université où du coup, pareil, il y a pas mal d'ingénierie, c'est pas mis en avant, mais il y a quand même beaucoup de liens avec l'armement. Enfin voilà, ça c'est un peu tous les trucs qu'on fait. Voilà, merci.
Je voulais juste continuer ce qu'il disait, camarade. Pour nous, en fait, on parle plus de plaidoyer que lobby. Je crois que lobby, c'est ceux qui font, c'est plutôt ce que les multinationales font. Je crois qu'on parle de lobby. Nous, c'est plaidoyer. Après, c'était un choix des anciens quand ils ont monté l'observatoire de dire qu'en fait, ça serait un outil pour qu'on ne se fasse pas chaque fois avoir, en fait, à être dans la réaction, et qui fait que l'urgence qui nous impose à chaque fois, parfois empêche d'avancer sur justement ce travail qui est quand même du long terme. Chez nous, c'est un peu ça qui est défendu pour avoir de l'impact. Mais par contre, aucun moment on n'exprime une incompatibilité ou quoi que ce soit, un jugement des modes d'action. Ça soit bien clair. D'ailleurs, après le lancement aussi du dossier, sur la région du 69, donc le Rhône, il y a eu le CRAM, donc qui est le coordination régionale antimilitarisme et anti-armement. Qui a aussi eu le CRAM du coup Isère, il y a aussi CRAM Loire 42. Donc et ces groupes-là sont libres de action, donc qui fait que je pense que c'est très complémentaire. Voilà, nous ce qu'on porte vraiment, c'est comment on accède à l'information pour que les actions elles soient le mieux ciblées possible et que voilà, qu'ils puissent l'énergie donnée soit bien utilisée.
Moi, je vais peut-être recentrer un tout petit peu sur le livre, en fait, parce que c'est ma déformation professionnelle. Mais moi, ma question, c'était de savoir surtout pourquoi tu l'as écrit, en fait. À quel moment tu as décidé d'écrire et pourquoi tu l'as écrit? Comment ça s'est passé avec l'édition aussi, avec l'éditeur?
Moi, j'écris tout le temps. J'écris pour d'autres collectifs. En fait, moi, ça me permet de mettre au clair ma pensée. Je suis chômeur, mais du coup, j'ai beaucoup de temps pour chercher. Du coup, je suis un peu un chercheur indépendant au chômeur. Et je pense que je n'ai pas encore la vision claire de qu'est-ce que c'est tout ce bordel. Et j'ai pas trouvé de bouquin qui ait la vision claire de ça. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est l'histoire. C'est pourquoi, en fait, à un moment donné, à Grenoble, bizarrement, en fait, il y a la marine, la direction générale de l'armement, elle est au côté marine, qui s'installe. Et ça me dit, mais c'est trop bizarre, pourquoi à Grenoble? Et comment ça se fait qu'ils tirent des fils pour essayer d'attirer des ingénieurs, des chercheurs? Ça m'intéresse pas pour juste m'intéresser. C'est parce que moi, je pense vraiment que pour comprendre notre monde et pour pouvoir lutter contre lui, il faut comprendre sa vision, il faut comprendre son idéologie. En fait, là, ça commence à sortir, mais en fait, même il y a 5-6 ans, personne ne parlait d'économie de guerre. Enfin, c'était limite tabou. Et là, aujourd'hui, ça sort un peu, mais vraiment, c'est le refoulé français, quoi. En fait, on a des entreprises d'armement, mais vraiment énormes au niveau mondial, quoi, vraiment. Et on a l'impression que personne n'en parle. Il n'y a pas beaucoup de gens qui se mobilisent contre ça. Alors que pourtant, les luttes écologiques, il y a quand même pas mal de gens. Il y a les méga-bassines, il y a les trucs, un peu de partout. Mais alors, dès qu'on commence à parler d'assaut, ah ouais, mais attends, ok, bon, c'est quoi, machin. Ah, mais Dassault, ils font du civil. Nous, des fois, à Grenoble, c'est même pire parce qu'en fait, des entreprises qui font du militaire, ils font aussi du médical. Du coup, c'est très dur. Et ils avancent surtout le côté médical. Ils disent pas qu'ils font du militaire. Trixel, qui est une succursale de Thalès, fait de l'imagerie rayon X. Mais ils font aussi du militaire. Ils font d'abord du militaire. Et c'est issu du militaire. Et c'est issu du CEA. Et ça, personne le dit. Les ingénieurs qui bossent là-dedans le savent, mais le disent pas. Souvent, dans les startups qui bossent pour l'armée, où il y a une partie, les labos sont divisés en deux. Tu as une partie qui est badgée avec ses protégés, puis tu as la partie qui fait de la camelote, des écouteurs, des machins MP3 et tout. Et puis tu as l'autre partie vraiment sérieuse qui est avec ses protégés. Et puis en plus, ils ont des clauses de confidentialité, quoi. Du coup, c'est assez dur d'avoir les infos. Mais moi, des fois, j'écris des articles. Soit tout seul, soit avec d'autres gens. Moi, je suis pas un très bon écrivain. Du coup, des fois, on se met à plusieurs, c'est plus facile. Enfin, on lance un premier jet. Et puis après, il y a des potes aussi qui arrivent à mieux structurer. Du coup, on est des petits groupes des fois à écrire. Et on publie ça des fois sur des sites internet qui acceptent de publier. Et de temps en temps, il y a le monde à l'envers, parce qu'on les connaît un peu, qui est une maison d'édition associative et qui aime bien ce qu'on fait, qui disent « Ah bah ça, en fait, ça ferait un bouquin ». Bon, par contre, faut un peu plus bosser le côté, faut pas que tu nous donnes 3 milliards d'acronymes, etc. Puis que tu donnes un peu envie aux gens à la fin que ça soit pas trop déprimant. Bon, même si ça l'est un peu. Et du coup, ils disent, bah là, c'est vraiment important. Et du coup, là, on bosse ensemble et on refait un bouquin. Voilà.
D'accord, merci. Oui, voilà. C'est très clair.
Mais il y a d'autres projets de livres. En fait, il y aura un truc spécifiquement grenoblois, c'est que l'électronique à Grenoble, l'électronique militaire, ça date de 55 à Grenoble. Et en fait, personne le dit à Grenoble. Il y avait la Thomson, c'est une énorme boîte, personne n'en parle, et du coup, il y a vraiment un travail de recherche, limite d'archéologie, de retrouver les anciens qui bossaient à la Thomson, etc., pour un peu refaire la généalogie de l'électronique à Grenoble, qui est vraiment, qui a inondé après toute la France. Voilà, du coup, il y a ce petit bouquin-là, et puis peut-être d'autres bouquins.
Et de formation, tu es scientifique ou...
Ouais. Alors, j'ai une formation de biologiste. En fait, j'ai fait mes stages de master en biologie au CEA, typiquement. Voilà. Et en fait, après mon master, je me suis dit, mais je me casse vraiment, là, ça pue. Par contre, ils me proposaient une thèse bien payée, etc. J'aurais pu faire carrière au CEA. En fait, non, j'ai refusé. Je me suis dit, là, il y a vraiment beaucoup de problèmes dans la recherche scientifique française. Et d'ailleurs, on a monté un collectif spécifiquement avec des thésards qui réfléchissent à la recherche. C'est quoi la recherche en France ? Pourquoi ça pose des questions au niveau éthique, au niveau écologique, etc. Et le collectif s'appelle « Faut-il continuer la recherche scientifique ?»
D'où le titre de Grothendieck.
Qui est une allusion à la conférence de 1972 d'Alexandre Grothendieck, qui est un célèbre mathématicien, peut-être le plus grand mathématicien du XXe siècle, je ne sais pas trop quoi, qui lui, pareil, au bout d'un moment, il a vu que ses recherches, vraiment, ça allait dans le mauvais sens, et les applications de ses recherches, pourtant il faisait des mathématiques pures, mais il a vu que sa recherche allait dans des directions qu'il ne voulait pas, et du coup il a décidé de stopper net la recherche scientifique. Bon, c'est un peu plus compliqué, mais... Et de fonder un groupe qui s'appelait Survivre et Survivre et Vivre. C'est le début de l'écologie politique en France, un peu aussi. Du coup, tout ça, c'est lié. En fait, l'écologie et l'antimilitarisme, à la base, vous pouvez trouver un bouquin qui est sorti avec toutes les revues de Survivre et Vivre. Et dedans, il y a des textes antimilitaristes, les textes d'écologie politique, des textes de critique de la technoscience, etc. Et pour eux, ça va ensemble. Ils font pas de différenciation entre ces trois domaines. On relie la guerre conventionnelle et la guerre généralisée aux vivants. Nous, on appelle ça comme ça. On pense qu'il y a des liens et peut-être il y aura un bouquin qui sortira sur la pensée guerrière, la pensée de prédation de notre société. Et je pense que c'est une pensée vraiment militariste, guerrière et qui est à fond présent dans la science moderne aussi. C'est pour ça que moi j'ai arrêté la biologie parce que je me suis aperçu que la plupart des instituts de biologie, ils sont pas là pour étudier le vivant, ils sont là pour le modifier. Voilà. Du coup, on a pas mal de liens. Moi, j'ai pas mal de liens avec des anti-OGM, les faucheurs volontaires, etc. Parce qu'en fait, ces luttes, pour nous, elles vont dans le même sens.
Et j'ai deux précisions et une question. D'abord, sur Grenoble, il y a quand même un piécé main d'œuvre qui a fait un travail énorme sur les puces, etc., et sur les militaires. Donc, il faut les citer, quand même. Hein. Et ensuite, une précision sur Toulouse. Quand vous parlez d'Ariane, vous parlez de la propulsion, mais un des trucs surtout, c'est tous les satellites qui balancent. C'est les satellites, s'il y a les deux tiers, c'est les satellites militaires. Voilà. Un autre exemple sur Toulouse, qui est très peu connu, c'est la météo, Météo France, qui va faire deux tiers de militaires, pareil. Et là, j'ai une question qui est un peu méchante, on va dire. Pourquoi, quand vous parlez de... des drones, par exemple, vous parlez que de la Russie. Et pourquoi, quand l'Observatoire fait un document sur les réfractaires, il ne le fait que sur les réfractaires russes, c'est-à-dire comme s'il n'y avait pas de déserteurs ukrainiens ou de drones ukrainiens, par exemple?
Déjà, tout d'abord, c'est parce que c'est notre nombre. On n'est pas assez nombreux pour pouvoir le faire partout. Et que chez nous, en tout cas, à l'Observatoire, bah, comme tout groupe qui a une intelligence collective, bah, y a des personnes qui disent « moi, je vais m'y mettre là-dessus ». Donc, il s'est mis et il fait ça. Aujourd'hui, on pourrait aussi, effectivement, mener les travaux sur Israël aussi, où les gens qui refusent des deux côtés. Et pareil, niveau des études, c'est des études à destination d'action. Donc, nous, en fait, on est quelque part, le vrai influence sur nous, bah, c'est les camarades qui font des choses, en fait. Avec Stop Arming Israël, là, ça fait bah, depuis le début de l'affaire du Gaza, bah, Patrice, il va bouger pour pouvoir parler de coopération, du coup, France-Israël, sécuritaire et militaire, qui est là depuis le début de la création d'Israël. Donc, on a l'expertise qui nous permet de le faire. Et puis, des fois, c'est juste une personne qui dit « moi, je veux bosser là-dessus », il le fait. Donc, du coup, moi, ça me va bien, cette question, parce que c'est dire qu'on n'est pas assez, en fait.
Moi, personnellement, je suis contre toutes les armes. Hein, je veux pas... D'ailleurs, à un moment, je le dis, là, je dis, bah, en fait, l'INRED, ils n'ont plus vendu à la Russie, bah, ils vendent à l'Ukraine. En fait, ils vendent aux deux.
Ils vendent aux deux.
C'est souvent, c'est ça. Il y a quelques exemples dans le bouquin, mais quand il y avait eu la guerre Iran-Irak, on vendait des chars Leclerc aux Irakiens et on vendait des munitions aux Iraniens. Fondamentalement, ce qui m'intéresse, c'est que les personnes et les peuples, les gens, en fait, ils s'en sortent. Et souvent, quand il y a des guerres, eh ben, en fait, tout le monde prend cher. Voilà, c'est tout. Et je n'ai pas envie de dire « Ah, tel Russe, il a pris plus cher que tel Ukrainien ». Moi, je ne parle pas des États, je parle des gens, de la population. Des deux côtés, ils prennent cher. La dernière chose aussi, c'est que quand un État commence à se mettre en mode guerre, c'est-à-dire mobilisation, etc., eh ben, les libertés publiques sont beaucoup plus restreintes. Et du côté, là, j'avais regardé du côté ukrainien, mais c'est la folie. Par exemple, les droits syndicaux sont bafoués, il y a beaucoup moins de liberté d'expression. Ma place ici à Grenoble, je lutte contre l'armement, quel qu'il soit. J'ai pas envie de choisir, voilà. Et je lutte contre les gens qui se font buter, quoi, voilà.
D'abord, des félicitations, parce que faire un petit bouquin pas cher, c'est déjà intéressant. Merci d'avoir mis aussi l'international anarchiste, bien qu'il y ait, en 1915, je le rappelle ici, à Zimmerwald, il y a aussi des socialistes qui se réunissent contre la guerre. Voilà.
Et petite anecdote, dans les 35 anarchistes, il y avait le père d'Alexandre Grothendieck, il n'est pas marqué, mais il y avait son père qui s'appelait Sacha Shapiro. Bon, c'est une petite anecdote.
Bon, on va conclure. Merci beaucoup à Fabrice et Sayat d'être venus ce soir. Merci à vous et bonne soirée. Merci.
Vous avez pu écouter à l'instant une rencontre avec Fabrice Lamarque, auteur de « Des treillis dans les labos, la recherche scientifique au service de l'armée », publié aux éditions Le Monde à l'envers, et Saya Topuzo-Gulari, enregistré le 17 avril 2024 à la librairie Ombre Blanche et réalisé et mis en onde par Radio Radio avec Radio Radio Plus et Radio Terre.
pour vous dire que ce qui vous attend, c'est ça peut être à la fois quelque chose de ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat!
Le problème, c'est qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, c'était Régor, chaque semaine sur Nicolas Garrigue à Montpellier, Canassu, à Toulouse. Donc, bien évidemment, Radio Primitive, cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51. Radio Primitive.